De prendre vos Bibles et de tourner maintenant en Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, où nous sommes en train de voir la première église païenne, ou si vous voulez, la première église gentile, non juive, 500 kilomètres du nord de Jérusalem, qui se déroule. Et le Seigneur a voulu que ça devienne une église modèle. C'était une église que nous avons vue, était dirigée par des hommes spirituels. Et nous avons vu, n'est-ce pas, dans le tout premier verset, Actes chapitre 13, verset 1, une liste de 5 différentes prophètes et enseignants qui étaient les leaders de cette église multiethnique. Il y avait un juif, il y avait deuxièmement Simon appelé Niger, c'est-à-dire le noir. Il y avait Cyrène qui était probablement de Arabie, un arabe. Il y avait Manéem qui était noté, était le élevé avec Hérode, donc quelqu'un vient de la noblesse. Et puis il y avait Saul, qui se rappelait après Paul. Au moins ces 5. Certaines pensent que ce n'est qu'une liste de plusieurs. S'il n'y avait que ce 5, c'était des hommes que très clairement, par le passage, dirigeaient l'église d'une manière spirituelle. C'était une église qui était engagée dans un ministère spirituel pendant qu'ils servaient le Seigneur, verset 2, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient. Donc on a 3 mots, servir, d'où vient le mot liturgie, un mot qui est utilisé exclusivement pour l'église maintenant, mais qui à l'époque était des services, étaient même militaires, administratives, etc. Mais qui voulait dire, de toute façon, ils servaient. Maintenant, dans la Bible, adorer, servir sont deux mots interchangeables, et c'est presque exclusivement dans le service du Seigneur, et c'est certainement le cas ici. Donc, c'était une église sensible à l'Esprit Saint. Et c'était une église qui avait une mission spirituelle. Versets 2 et 3. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelle. La dernière fois, il y a quelques semaines, quand nous étions ici, nous avons vu dans verset 1er, l'activité du Saint-Esprit déclarée. Le Saint-Esprit joue un rôle très important que Dieu ne veut pas qu'on manque. Est-ce que cette activité manque dans nos églises aujourd'hui? Il y avait dans cette église d'Antioche des prophètes nommés, nous avons déjà vu, et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, donc une activité, il parle. Comment? Nous ne savons pas. Je suggère que c'était à travers un des prophètes ou à travers plusieurs ensemble. Comment il leur a fait comprendre? Mais il leur a fait comprendre que 2 sur ces 5 devraient partir en mission. Donc nous voyons une activité de l'esprit envers une église. Nous voyons une église qui était prête et sensible à recevoir cette activité de l'Esprit Saint. Et nous voyons donc, deuxièmement, et dans le deuxième et troisième verset, une collaboration entre des hommes, une église remplie de l'Esprit de Dieu et l'œuvre de l'Esprit. Et ça devient donc un modèle pour nous tous. Mais nous lisons en verset 3, Barnabas et Paul, mettez-moi à part, dit le Saint-Esprit. Barnabas et Saul, c'est toujours Saul, pas encore Paul, ça va devenir en quelques versets Paul, et ça va rester Paul le reste du temps. Saul c'est juif, Paul c'est grec. Paul utilisait sans doute le nom Paul quand il était parmi les Grecs et le nom Saul quand il était parmi les Juifs. Mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, c'est la deuxième fois que nous voyons jeûner et prier, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Certaines versions disent « envoyèrent », c'était pas ça. Ils se sont relâchés, ces deux hommes. Les deux hommes principaux dans l'église. Les deux hommes qui étaient probablement le plus doués, le plus utiles. Et on a tendance de dire « Seigneur, envoie telle ou telle personne », mais pas les leaders en qui nous avons notre dépendance. Non, Barnabas et Saul, parmi les cinq et parmi tous les autres, le Saint-Esprit sont à ma disposition. Je veux que ce soit eux qui partent. Et en verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, donc relâchés par l'Église, envoyés par le Saint-Esprit, descendent à Séleucie. Je crois que mon prochain... Voilà. Et j'ai mis ça ici la dernière fois. Antioche, 500 kilomètres loin de Jérusalem, hors du pays. Ici, on est déjà à l'extérieur d'Israël. Donc, une église composée des Juifs et des païens. Et maintenant, ils descendent une quinzaine de kilomètres pour partir une centaine, 150 peut-être kilomètres en bateau. Et à partir de là, nous lisons, ils descendirent à Séleucie et de là, ils embarquent pour l'île de Cypre, arrivés à Salamis, ils annoncèrent la parole de Dieu d'abord dans les synagogues des Juifs. Paul avait le droit, en tant que rabbi, d'entrer dans un synagogue. Ceux qui le voyaient sachaient qu'il était un rabbi. Ils avaient la responsabilité de demander à un rabbi visiteur de se lever et de présenter une méditation de la parole de Dieu. Ce que Paul faisait toujours. Ils arrivaient dans les synagogues et ils prêchaient. Et nous lisons, ils avaient Jean pour aide. Jean, nous lisons plus tard, c'est Jean-Marc, c'était sa mère qui avait la maison dans laquelle les gens priaient pour que Pierre soit sauvé de la prison. Et Pierre, quand il était sorti dans le dernier chapitre, il est parti chez Marie, maman de Jean-Marc. Alors, Jean-Marc était aussi le neveu de Barnabas. Donc, il partent pour Cypre. Peut-être j'ai dit la dernière fois, je ne me rappelle plus. Nous lisons que le Saint-Esprit dise « Envoie ces deux personnes, ils sont appelés par Dieu. » Mais il ne dit pas où aller. C'était à l'Église, apparemment, de décider où ils doivent aller. Tous les détails ne sont pas clairs. Certainement, le Seigneur met sa main sur ses serviteurs pour leur faire convaincre, et puis l'Église reconnaît cet appel et les envoie. Pourquoi ils sont partis à Cypre? Peut-être parce que Barnabas lui-même est de Cypre. Barnabas était parmi des gens assez riches, quelqu'un qui avait de la propriété, quelqu'un qui a dû connaître des personnes, et après sa conversion, rappelez-vous qu'il avait, vendu ses biens et distribué, et maintenant il était sans propriété, probablement, mais il connaissait beaucoup de monde, il voulait qu'il soit évangélisé. Pourquoi pas? Ils sont partis. Et quand nous continuons la lecture, ils traversaient toute l'île. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait une ligne droite, ça veut dire qu'ils avaient fait... quand ils sont arrivés à Paphos, ils avaient, en fin de compte, évangélisé l'île dans tous les villages. Donc, c'est une chose qui a dû prendre des mois, peut-être presque un an, de constant, d'avoir beaucoup d'expérience, de passer du temps dans beaucoup de maisons, d'avoir certaines situations remarquables et mémorables, de souder des intimités avec certaines familles, certaines qui n'étaient pas converties, mais qui se convertissaient, et Paul restait chez eux, et peut-être d'autres personnes se convertissaient dans la famille, et puis témoignaient de leur foi. Il y avait sans doute une riche tas d'expériences qu'un historien aurait pu noter. Ils avaient mangé la nourriture étrange, des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude. Ils avaient observé beaucoup de choses. Mais curieusement, nous n'avons qu'un seul incident. Il y avait un historien présent, Luc. C'est Luc qui écrivait le livre de Actes. Il était présent avec. Et Luc ne rapporte qu'une seule histoire, un seul incident parmi tout ce qui est là. Et l'incident n'est pas trop beau. Mais un seul. Et que nous voulons lire maintenant? Je l'ai lu la dernière fois et j'ai touché légèrement dessus, mais je voulais voir pourquoi, d'après vous, pourquoi est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit aurait choisi cet incident plutôt que une série de plusieurs incidents de noter et rien d'autre? Lisons la situation. Et on traversait, verset 6, toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, un sorcier, un faux prophète. On connaît deux choses déjà. Il était un certain magicien, il était un faux prophète. Il était un juif, en plus. Un choc. Il était nommé Bar-Jésus, ça veut dire fils de salut. Curieusement, qu'il était avec le proconsul Sergius Paulus. Donc Sergius Paulus était l'homme principal de toute l'île. Il était le grand gouverneur. Ce sorcier était attaché avec lui. Et nous lisons, cet homme, Sergius Paulus, était un homme intelligent. Luc veut que nous comprenions cela. Ça veut dire, dans certains, un homme prudent. C'était un homme qui avait beaucoup de sagesse et qui n'était pas content juste de ne pas imposer des questions. Pourquoi? Et de chercher des réponses profondes. La logique de la foi chrétienne peut être comprise par beaucoup de gens s'ils employaient leur intelligence pour chercher à aller plus loin plutôt que laisser leurs émotions et leur volonté qui est contre l'évangile et la logique de la foi. Un homme qui pense est un homme qui risque. Un homme qui pense, qui vraiment pense, est un homme qui risque de tomber sur les bonnes questions à poser et de ne pas être content pour une réponse superficielle pour satisfaire ses désirs. Il était, ça va démontrer, un homme comme ça. Ce dernier fut appelé Barnabas. J'ai perdu ma place. Il fut appelé Barnabas et Saul, voilà. Ce dernier, Sergius Paulus, cet homme intelligent, appelait Barnabas et Saül, et il a entendu parler de leur présence. Il manifestait le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, qui c'est Élimas? Élimas, c'est Bar-Jésus. C'était le musicien, car c'est ce qui signifie son nom. Ah bon. Donc, Bar-Jésus s'appelait aussi Élimas. Et il leur faisait opposition. Et le verbe, là, c'est un verbe très très fort. C'était étudié, c'était calculé, c'était déterminé de opposer à tout prix. Parce que Sergius Paulus n'était pas de le même esprit que lui-même. Sergius Paulus cherchait honnêtement à comprendre la vérité. Il cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Paul, appelé aussi, Saul appelé aussi Paul. Notez cet incident parce que vous n'allez jamais voir Saul à partir de maintenant. Vous allez voir que Paul. Saul appelé aussi Paul. Et je continue par dire probablement parce que c'est Paul qui commence maintenant à partir de cet incident de prendre le devant. C'est pas Barnabas. Barnabas va, il était le premier, mais Barnabas maintenant va reculer. Paul, rempli de l'esprit, fixa les regards sur lui et dit, ouvre les guillemets, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, toi, fils du diable, ennemi de toute justice, voilà. Rempli du Saint-Esprit, il parle ainsi. Et maintenant, sa requête, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Et maintenant, ce qui se passera, et voyez la miséricorde de Dieu dans cette phrase. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Quelques minutes, quelques heures, quelques mois, on ne sait pas. Mais pour un temps, et ce n'était pas définitif, c'était merveilleux comme le Seigneur avait dit pour un temps, cet aveuglement qui illustre l'aveuglement de son cœur et la détermination dans son cœur ténébreux de être un obstacle à quelqu'un d'autre de venir au Seigneur Jésus. Et aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant de personnes pour le guider. Et puis, je crois que je vois maintenant, verset 12, la raison pour laquelle l'apôtre, Dieu a voulu que nous soyons cet incident. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il a cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Je vois, très simplement, deux leçons ici dans notre texte. Le Seigneur veut que nous comprenions que l'œuvre de la proclamation de l'Évangile sera toujours opposée par Satan. Quand vous ouvrez la bouche pour parler du Seigneur, sachez que vous serez toujours opposé par un ennemi plus fort que toi. Et deuxièmement, que l'Évangile est toujours plus puissant que toute opposition de Satan. Et c'est toujours le cas. Nous avons un ennemi qui est plus fort que nous, mais qui est moins fort que ceux qui sortent de notre bouche. Et j'espère que ça ne sera quelque chose qui ne fera pas que vous soyez terrifiés par Satan. Il existe des gens dans le monde évangélique qui courent terrifiés par la puissance du Satan. Ils citent des versets qui parlent de la puissance de Dieu comme plus grand que Satan. Par contre, ils tremblent parce qu'ils ne pensent pas pouvoir saisir la puissance et donc être assujettis, vulnérables aux puissances du ténèbres. Et je crois que cet incident est ici pour dissiper ces craintes. Entre autres, Satan est vraiment une puissance, et il faut le connaître. J'allais vous faire regarder dans vos Bibles, mais j'ai décidé de mettre sur l'écran. Éphésiens chapitre 2, verset 1er, pendant plusieurs versets. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, vous, chrétiens, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, et puis selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, nous avons cet esprit. Il y a le Saint-Esprit, il y a le méchant esprit. Il est puissant, il est le prince de la puissance de l'air. Et il agit dans les fils de la rébellion. C'est qui? C'est moi, avant ma conversion. C'est vous, il est marqué, verset 3. Nous étions de leur nombre, nous tous aussi. Nous vivions, voyez les verbes imparfaits, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Et qu'est-ce que nous avons fait? Mais nous accomplissions les volontés de notre chair, de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Et notez le rôle que l'esprit de la puissance de l'air joue dans ceci. Mais Dieu, et nous n'allons pas continuer la lecture, mais vous devrez rentrer à la maison et continuer la lecture. Mais Dieu qui a brisé la puissance de cet ennemi, avec son grand amour, nous a délivrés par sa puissance. Donc, l'apôtre Paul disait, quand il témoignait devant Agrippa le roi, « Oh, monsieur le roi, dit-il, j'ai été appelé pour aller chez les païens, pourquoi faire ?» Et c'est, il cite Jésus. Quand j'étais dans cette extase sur la route de Damas, j'étais aveuglé comme Elimas, le sorcier. J'étais aussi aveuglé comme une illustration de mon aveuglement spirituel, et Paul était aveuglé pendant plusieurs jours. Mais Dieu m'a appelé, ouvre les guillemets, afin que tu, Paul, tu ouvres leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Ah, qu'ils passent de la puissance de quelqu'un à Dieu. Et ce quelqu'un est Satan lui-même, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Nous avons une merveilleuse œuvre à faire, de attaquer une puissance beaucoup plus grande que nous, impossible à apercevoir et surtout à pénétrer dans ses ressources et sa puissance. Nous avons l'appel de le faire quand même avec l'Évangile. Et c'est une puissance que l'apôtre Paul dit, pour les incrédules, c'est le Dieu de ce siècle à leur aveuglé. Souvent, après être converti, il y en a plusieurs ici, il y a des choses qui deviennent très claires. Et après, vous dites, mais comment ça se fait que j'étais si bête? Comment ça se fait que c'était si stupide? J'ai pas compris avant, mais maintenant c'est très simple, c'est très clair. Qui peuvent ne pas comprendre? Et la réponse est ceux qui sont sous la puissance du diable, comme vous, avant de connaître le Seigneur. Ils sont sous la puissance, il a aveuglé leur intelligence. Pourquoi? Pour qu'ils ne vissent pas briller le splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et Éphésiens chapitre 4, verset 18, dit, ces personnes ont l'obscurcissement de leur intelligence. Donc, savez-vous que nous sommes nés mentalement retardés? Notre intelligence a été coincée entre le désir de notre propre volonté, qui n'a aucune rationalité du tout, sauf que je veux. Un enfant naisse, au bout de quelques semaines et quelques mois, elle commence à crier. Et c'est pas la peine de raisonner. Elle veut. il veut. Il grandit jusqu'à grand, il devient capable de raisonner et d'employer son intelligence, de voir des choses logiquement. Peu importe, je veux. Et maintenant, son intelligence obscurcie, il emploie avec grande rigueur la logique pour justifier ses désirs. Et ça c'est moi et ça c'est vous, avant que Dieu brise à travers les ténèbres. Et nous avons en Colossiens, donc il y a 3 ans que nous avons étudié le livre de Colossiens, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Nous lisons, même comme le serpent a séduisé Ève par sa ruse, je crains, dit l'apôtre Paul, que vos pensées ne se corrompent. Alors, l'apôtre Paul est en train maintenant de parler aux chrétiens qui avaient reçu l'évangile, mais quand même ne constatent pas la capacité de l'ennemi de le faire dérégler dans leur pensement. Il dit, dans leur pensée, il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Combien il est souvent le cas avec la religion d'aller vers la simplicité à la grande complexité. Croire n'est pas peut-être facile, mais elle est simple. La simplicité de la foi en Jésus-Christ, Satan fera de son mieux de faire n'importe quoi, de rendre complexe ce qui est très simple. Et l'apôtre Paul va dire en Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi donc Paul pourrait-il parler avec tant d'assurance? Comment ça se fait que Paul, qui sait, nous sommes en train de lutter contre des dominations, ils sont plus grandes que nous? La réponse est à travers tous les épîtres. Mais en Romains chapitre 1, verset 16, dans sa présentation de l'évangile, Paul dit, « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. » Paul dit, « Je n'ai pas honte de l'évangile du tout. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi, pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Quand Paul arrivait à Cypre, j'avais compté les mots, j'avais compté à peu près 250 mots de négativisme, entre guillemets. C'est un seul incident. Il aurait pu avoir un volume grand comme ça. Mais un seul incident, avec à peu près 280 mots, donc plus que 250 sont des mots négatifs, sont des mots terrifiants même. Et même quand Paul parle, rempli de l'esprit, il parle des choses d'une manière extra féroce. Avez-vous jamais étudié les paroles sévères de Jésus? Jésus a dénoncé avec 8 différents malheurs à. Jamais une seule fois est-ce que Jésus dénonçait un pécheur pour ses péchés. Jésus donc dénonçait les religieux qui gardaient les personnes de venir vers le Seigneur. Les les mots de malheur, les serments féroces contre des gens n'étaient jamais contre les prostituées, n'étaient jamais contre les voleurs, des brigands, des gens de méchante vie, jamais. Au contraire, à chacun d'eux, ils parlaient avec une grande tendresse. En les invitant de venir vers lui. Mais nous avons lu dans notre texte, Élimas, un sorcier, un faux prophète, un juif qui connaissait la loi de Dieu, qui aurait dû connaître les profondeurs de la religion juive, qui s'est planté lui-même parce qu'il craignait perdre son emploi, parce qu'il cherchait du gain, il cherchait de l'argent, il était à côté du gouverneur, le gouverneur prenait beaucoup de confiance en lui, il faisait, entre guillemets, des miracles, il faisait de la sorcellerie, il faisait des choses à rive. Puissamment. Alors, cette personne aveuglée dans sa connaissance, mais intelligente, qui voulait comprendre quelle est la vérité. Comment est-ce que je peux être délivré de ces ténèbres qui appelait Barnabas et Paul? Ah non, 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 dit Élimas, il est trop sérieux. Élimas est un peu comme beaucoup de gens dans la religion, même dans le monde évangélique aujourd'hui, qui avec beaucoup d'occultisme, avec beaucoup de soi-disant miracles, avec un évangile de la prospérité qui présente une fantaisie de l'évangile, qui est une fausse évangile, qui tente des personnes de venir par des ruses afin qu'ils aient du gain. Et ça c'est partout dans le monde, en France même. Et à travers le monde, Élimas représente des personnes contre qui le jugement est très 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 sévère. Christ est venu pour annoncer sa bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul disait, je n'ai point honte. J'aurais quelques versets que je pourrais laisser, mais je ne l'ai pas mis sur l'écran. Mais dans Psaume 119, verset 46, David, serviteur de Dieu, dit, je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Je parlerai de tes préceptes devant les grands. Quand vous êtes parmi la noblesse, quand vous êtes parmi la société plus élevée, est-ce que vous parlez sans rougir de l'évangile? Je crois que la différence entre l'apôtre Paul, je crois que la différence entre les apôtres après Pentecôte et avant Pentecôte était parce qu'ils avaient expérimenté la réalité de la puissance de l'évangile. Ils savaient que Satan était puissant, mais ils savaient qu'en chaque cas, l'évangile était encore plus puissant. Et quand nous ouvrons nos bouches pour partager l'évangile aux autres personnes. Nous avons l'autorité de l'Esprit Saint derrière nous. Et quand ils écoutent, ils sont touchés jusqu'au fond de leur cœur. Et c'est pour cela que quand vous témoignez du Seigneur, que ce soit à vos parents, que ce soit à votre famille, que ce soit aux personnes, ils sont rarement neutres émotionnellement. Quand ils entendent l'évangile, ils vont forcément réagir. Pour ou contre. Parce que l'évangile est puissante. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 2, 14, ma parole, 2, 4, 1 Corinthiens 2, 4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je vais le relire plus lentement. Ma parole, mon évangile, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est pour cela que on peut témoigner face à toute opposition. La présence de Satan est réelle. Mais la puissance de l'Évangile est toujours une force supérieure à ce que nous voyons. Et donc nous lisons, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut. Ah, mais il était pris par cette extraordinaire expérience. Enfin, voilà le sorcier, il est aveuglé. Non, regardez le reste de la phrase. Il était frappé de la doctrine du Seigneur. Doctrine veut dire enseignement. Il était frappé par la doctrine. Quelqu'un qui savait penser. Quelqu'un que quand il entendait la parole de Dieu, à travers un homme rempli de l'Esprit de Dieu, a mis 2 plus 2, il a eu 4. C'était clair. C'était net et clair. L'Évangile est net et clair. Et chers amis, nous devons reconnaître la puissance du Satan. Si le Saint-Esprit a voulu que nous soulignions quelque chose, je crois que c'est ces deux choses. Il n'y aura jamais un moment où il n'y aura pas d'opposition surnaturelle de l'ennemi. Mais cette opposition est sur un niveau très bas par rapport à l'Évangile que nous possédons. J'ai l'impression que nous n'avons souvent pas la joie du Seigneur en nous, nous n'avons pas la conviction, nous n'avons pas la foi qui force une spontanéité, un état naturel, un état autoritaire. Quand les gens sont partis pour chercher Jésus, envoyés par des scribes et des sacrificateurs, des soldats, sont revenus sans Jésus, pourquoi tu ne l'as pas pris? Il disait, personne ne parlait comme lui. Je ne crois pas qu'il criait. Je crois qu'il parlait. Et nous avons la même autorité. L'Évangile est aussi puissante dans ma bouche que dans la bouche de Jésus-Christ. Dans ta bouche que dans la bouche de qui que ce soit. Le meilleur évangéliste que vous avez jamais entendu. Et lorsque nous prêchons l'Évangile, annonçons l'Évangile avec cette conviction et autorité de l'Esprit, Satan est vaincu. Oh, il se manifeste! Mais nous ne devrions jamais courir loin de lui. J'avais cité George Mueller Hudson Taylor, qui beaucoup de fois a dit, je refuse de voir une deuxième cause. Oui, je sais, Satan est une cause, mais c'est une cause minoritaire. Dieu est la cause principale. Je ne regarde pas sur Satan. Si, si, il agit. Mais sa puissance est si inférieure à la puissance de l'Évangile, il ne me dérange plus. Ça devrait être notre état devant le Seigneur.